I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Louis. À 16 ans, je pars en colo de surf. Là-bas, je rencontre Louis, qui devient vite un super pote. En 2012, un an après, je l'invite à passer des vacances chez moi, en Bretagne. Un soir, tous les deux assis à la table de mon jardin, je lui confie les détails de ma première rupture amoureuse. Au détour de la conversation, il m'assure avec une mine catégorique « Tu sais, Cécile, dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. » À l'époque, je ne sais pas trop quoi en penser. Il a l'air si sûr de lui. Au fil des années et de mes rencontres, cette phrase m'a suivie. Je l'ai éprouvée, testée, jugée, parfois écartée, parfois répétée à des proches. 10 ans plus tard, cette phrase me trotte toujours dans la tête. Je crois m'être fait mon avis sur la question, et je ne suis pas la seule. De ma famille à mes collègues, en passant par les propriétaires de chiens que je retrouve tous les soirs au parc, tout le monde y va de son commentaire affirmé lorsque je leur pose la question « Et toi, est-ce que tu penses qu'en couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre ?»
Ah oui, cette fameuse question. Pour moi, c'est pas une histoire de quantité.
Bah oui, je pense qu'il y en a un qui donne toujours plus que l'autre, qui aime plus que l'autre, c'est sûr.
Ça dépend de ce qui se passe dans la relation et de comment sont les personnes.
Je pense qu'une relation atteint son maximum quand il y a une forme d'équilibre et que les deux s'aiment mutuellement à peu près également.
Alors si nos couples sont des balances, leurs plateaux sont-ils condamnés à être déséquilibrés ? D'où nous vient cette vision quantitative de l'amour ? Et pourquoi personne n'a jamais envie d'être celui ou celle qui aime le plus dans un couple ?
Émotion. C'est important de faire la différence entre une émotion et un sentiment.
Émotion !
L'espoir, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, qui se vit à plusieurs.
Oh, émotion, émotion, émotion.
J'apprécie particulièrement les moments où je vois que je fais un peu rigoler. Enfin, j'ai l'impression que je compte.
Émotion.
Quand je suis triste, je suis très triste. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Mais quand je suis heureuse, je suis aussi très heureuse.
Émotion, émotion, émotion.
Je pense qu'à 17 ans, on dit des choses auxquelles il faut réfléchir bien des années plus tard. Parce qu'à 17 ans, il se passe vraiment un truc. C'est pas pour rien que Rimbaud dit « on n'est pas sérieux à 17 ans ». En fait, on est vraiment sérieux à 17 ans.
La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Maïssa, une amie de 52 ans. Originaire du Liban, elle grandit dans un milieu musulman conservateur. À la fin des années 80, durant son adolescence, son pays est en guerre et sa famille s'installe dans la ville de Tripoli.
Moi, j'ai été élevée avec une idée de l'amour qui était dogmatique, c'est-à-dire qu'il fallait que... Alors, bon, ça va faire rire les gens qui m'entendent, mais dans ma société à l'époque, il y avait cette histoire de virginité.
C'est à ce moment qu'elle prend conscience de la vision très dogmatique de l'amour que tente de lui inculquer la société. Dans les années 80, il n'existe pas de lieu mixte dans les rues de Tripoli, aucun espace de rencontre entre les deux sexes. Les femmes, considérées comme la propriété de leur père ou de leur mari, ne peuvent pas vivre seules, sous peine d'être rejetées. Mais un jour, Maïssa se dresse contre ces injonctions.
J'avais 17 ans, j'ai décidé que c'était plus possible. Voilà, pour moi, la virginité, il fallait s'en débarrasser le plus vite possible. De deux, je faisais des discours donc à toutes les filles que je rencontrais, parce qu'à l'époque, j'étais donc dans des foyers de bonnes sœurs et tout ça. Et donc, je faisais des réunions avec toutes les filles autour, je faisais des discours. « Chère sœur !» Et en plus, je faisais vraiment ça. « Maintenant est venu le temps de la vie. »
Maïssa est quelqu'un de très charismatique. Sûre d'elle, elle n'hésite pas à s'exprimer. Et ça fait un peu désordre, notamment quand elle donne des conseils sentimentaux à ses copines, au foyer musulman.
Une fille un soir toque à ma porte dans cette chambre de bonne sœur. Elle me dit, mais Maïssa, il y a un garçon qui me plaît beaucoup, il s'appelle Nabil, et en fait, je ne sais pas quoi faire, il veut qu'on couche ensemble, et je ne sais pas si oui ou non, et tout. Et moi, je la regarde, je fais, est-ce que tu es amoureuse de ce garçon? Est-ce que ton cœur, il bat quand tu le vois? Elle me dit oui. Est-ce que tu te réveilles, tu penses à lui? Elle me dit oui. Est-ce que tu te couches, tu penses à lui? Elle me dit oui. Je dis, bah vas-y. T'es déjà plus vierge, hein, c'est fini. Hein. Elle me dit, ah d'accord.
Petite anecdote, cette jeune fille a retrouvé Maïssa sur Facebook des années plus tard. Et elle lui a dit qu'elle se souvenait d'elle, car elle était encore avec ce garçon aujourd'hui. Car Maïssa, c'est exactement le genre de personne dont on se souvient. Curieuse, avide d'aventure et d'émancipation, elle déménage à Paris et intègre la Sorbonne à 17 ans pour devenir journaliste. Pour la première fois, elle se retrouve sans surveillance, libérée du contrôle de sa famille et de la société libanaise. Là-bas, dans les couloirs de la fac, elle fait la rencontre de Benoît, avec lequel elle vit son premier amour et plusieurs années de bonheur. Pourtant, malgré les 3000 km qui la séparent de sa terre natale, la puissance de son carcan familial et le poids des traditions causent leur rupture.
Un jour, il me dit « Est-ce qu'on fait un enfant ?» Et je dis « Attends, je dois demander à mon papa. » Il m'a dit « Au revoir. » Quoi, tu vois ? Il m'a dit « Là, je pense qu'il va falloir que tu règles ton problème. » Parce qu'il y a un petit souci, c'est que là, tu as 23 ans et qu'on ne demande pas à son père si on veut faire un enfant avec un homme qu'on aime. Lui, et pourtant, c'est lui qui donnait plus, parce que moi, j'étais occupée avec moi-même. Ça s'est terminé comme souvent ça peut se terminer, c'est-à-dire qu'il est juste parti, quoi. Et moi, je me suis retrouvée sur la valise, quoi. J'ai pleuré toute la nuit. Après, j'ai dû partir vivre dans la chambre de bonne de ma sœur, où j'ai continué à pleurer aussi encore très longtemps.
Avoir l'impression que l'on est moins investi ou que l'on aime moins que son partenaire de couple ne protège donc pas des blessures. Ce qui a causé la rupture de Maïssa et Benoît, c'est d'abord le fossé culturel qui les séparait. Maïssa en était bien consciente. Ce qui m'amène à me poser une question. Personnellement, je suis née en France et n'ai pas reçu d'éducation particulièrement conservatrice. Mais aujourd'hui, suis-je pour autant vraiment libre dans mes relations de couple ? En Occident, après des siècles d'impératifs sociaux, religieux et économiques, les institutions sociales comme le mariage, le devoir conjugal, les bonnes mœurs ou la famille pèsent moins lourd dans la balance qu'au début du siècle dernier. L'historienne Anne-Marie Saune, autrice du livre « Du premier baiser à l'alcôve », explique que jusqu'à la libération des mœurs sexuelles engagées dans les années 60, le couple était considéré comme indéfectible. Faire famille était souvent la seule raison de faire couple et la séparation était rarement envisageable. Mai 68 et la décennie qui a suivi ont entraîné une véritable révolution amoureuse et sexuelle. En France, la légalisation de la contraception en 1967 puis de l'avortement en 1974 a accéléré le processus. Pour le sociologue Serge Chaumier, c'est précisément à cette période que l'on est passé du couple dit « fusionnel » au couple fissionnel. Désormais plus ouvert sur l'extérieur, le couple autorise plus facilement les partenaires à exister en dehors de lui-même. Chacun est par exemple plus libre de conserver ses passions ou de se faire inciner tout seul. Malgré la survivance du système patriarcal et de ses dynamiques de domination et d'oppression, le couple est moins un espace de contrainte aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Plus permissif, il devient plus volontiers un espace de liberté, bien que la route vers l'égalité soit encore longue. Aujourd'hui, c'est donc le cœur qui est censé commander la vie à deux, et pas l'Église, ni le père de famille. Alors qu'est-ce que ça change de se baser davantage sur la force de ses sentiments que sur des injonctions extérieures ? Pour en savoir plus, je me rends au cabinet de Serge Effèze, thérapeute familial et conjugal à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Enchantée, Cécile.
Il me parle de ce qu'il appelle la relativité des sentiments, c'est-à-dire le fait que nos sentiments constituent le critère numéro un pour se mettre en couple aujourd'hui.
C'est plus difficile aujourd'hui de faire couple, c'est-à-dire justement de faire avec cette relativité des sentiments, que de faire durer un couple. Quand j'ai commencé à avoir des couples, ça doit faire une quarantaine d'années maintenant, je ne voyais quasiment que des couples qui avaient 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie commune et qui justement sentaient un essoufflement par rapport à ça et avaient envie de revisiter un peu la relation pour se redynamiser. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de couples qui se connaissent depuis 6 mois, 1 an, qui viennent déjà en thérapie de couple et chaque fois je leur dis « mais vous êtes déjà là ».
Pour Serge Effèze, l'une des conséquences de ce gain en liberté depuis les années 60, c'est que le couple est devenu, selon ses termes, un lieu en perpétuel mouvement. En son sein, il est menacé par l'individualisation des partenaires. Selon le philosophe Vincent Citeau, dans un article de la revue Le Philosophoire, nos sociétés modernes sont submergées par une vague d'individualisme. En dehors, il est menacé par des modèles de référence qui nous poussent à toujours remettre en question l'imperfection de nos couples. Selon l'INSEE, alors que 320 000 divorces ont été prononcés dans les années 50, on en dénombre plus d'1 300 000 entre les années 2000 et 2010. La réforme du divorce de 1975 a certainement contribué à cette augmentation. En introduisant dans la loi le motif du divorce par consentement mutuel, le désamour est désormais une raison tout aussi valable qu'une faute objective. Nous avons donc l'impression d'être plus libres en amour aujourd'hui. Et c'est aussi le cas de Maïssa. Quelques années après ses études, elle a fini par trouver la liberté qu'elle cherchait. Elle est devenue journaliste, voyage beaucoup, interview des musiciens du monde entier et estime s'être affranchie d'un certain nombre de contraintes imposées par les autres. En 1995, dans les couloirs d'une radio, elle fait la rencontre de David, un charmant jeune homme qui fait le même métier qu'elle. Il commence alors une belle histoire d'amour, menant au mariage, à la naissance d'un premier enfant, puis d'un deuxième. Pendant toute leur relation, elle conserve dans un coin de son agenda ou de sa tête une liste de petits cadeaux à lui offrir. C'est sa façon de se rendre présente, de lui témoigner son soutien, son affection, de lui démontrer combien elle l'aime.
J'aime bien les gestes, c'est pas forcément des grands cadeaux onéreux, mais c'est juste qu'il y a un geste. Et pendant longtemps, je pensais que les gens devaient... mon amoureux ou mes conjoints, et en l'occurrence le père de mes enfants, je pensais qu'il allait deviner tout seul, quoi. Qu'en fait, voilà, j'ai besoin, c'est important pour moi. Et en fait, on pouvait marcher dans la rue, je me souviens, en bas de la maison où on habitait, donc à Paris, il y avait un bijoutier et je m'arrêtais souvent devant le bijoutier avec lui à côté et je faisais oh, « qu'est-ce qu'elle est belle, cette bague, qu'est-ce qu'elle est belle, cette bague, qu'est-ce qu'elle est... » Rien, bon, d'accord, une fois, deux fois, trois fois, tu vois, j'ai fini par craquer. Bon, ça, c'est un exemple un peu con, mais ça reflète aussi le besoin, quoi. Pour moi, c'était une expression d'amour que d'être à l'affût et à l'écoute de tout ce dont a besoin l'autre, en fait. Tu vois, par exemple, à l'époque, on parlait beaucoup de ce qui s'est passé aux États-Unis et il y avait beaucoup de discussions politico-politiques autour de ça. Et je me souviens que lui avait dit « Ah, mais Noam Chomsky, c'est génial, je l'ai écouté à la radio, c'est top. » J'ai été acheter le bouquin de Noël Chomsky pour dire, voilà, cadeau, j'ai mis à toi, puisque machin. Alors peut-être que c'est con de réfléchir que ce qui nous fait plaisir à nous doit faire plaisir à l'autre. Mais pour moi, en tout cas, dans le terme des actes amoureux, j'avais témoigné quelque chose. Et d'ailleurs, le jour où je lui ai pris la tête sur la bague, j'ai dit, mais moi, j'ai écouté. J'ai fini par dire, en fait, j'aime les cadeaux. Mais du coup, ça a perdu tout son goût. C'est fini. J'avais plus envie de cette bague.
À ce moment-là, Maïssa a tout sauf l'impression d'être libre. Si elle trouve que la bague a perdu de sa saveur, c'est parce qu'elle se sent déçue et rejetée. Déçue parce qu'elle s'attendait à davantage d'enthousiasme de la part de son conjoint en lui offrant des cadeaux. Rejetée car elle n'a pas reçu la bague, cette preuve d'amour qu'elle espérait. « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour », disait le poète Pierre Reverdy. Et à cette citation, le psychiatre Serge Fès ajoute que les preuves d'amour ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il faut se montrer capable de décrypter l'autre et sa culture amoureuse et ne pas tout laisser à notre ressenti, qui peut être trompeur.
Mon Dieu.
Une façon peut-être de vous rappeler mes sentiments pour vous.
C'est un...
Un diamant, oui. 56 carats pour être exact.
Dans le film Titanic, ce n'est pas une bague, mais le cœur de l'océan que Cal offre à Rose. Un collier d'une valeur inestimable que le premier, joué par Billy Zane, offre à sa fiancée, interprétée par Kate Winslet. Son amour pour elle pèserait donc 56 carats. Mais en offrant le bijou, il ne fait pas qu'étaler la force prétendue de ses sentiments. Il cherche à acheter ceux de Rose. Malheureusement pour lui, tous les diamants du monde ne sauraient suffire. Les cadeaux, les caresses, tous ces petits gestes du quotidien en couple, le pasteur et conseiller conjugal américain Gary Chapman en a fait une classification. Il y a consacré un livre, « The Five Love Languages ». Ces cinq langages de l'amour seraient donc le temps passé à deux, les paroles valorisantes, les attentions, les cadeaux et le contact physique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire tous les efforts du monde pour exprimer votre amour sans être entendu? Comme Maïssa qui cherchait à retenir tout ce qui allait potentiellement faire plaisir à son conjoint, alors que celui-ci n'y accordait pas une si grande importance? Peut-être que, pour vous, nettoyer l'appartement de fond en comble avant que votre partenaire ne rentre du travail a plus de sens que de lui sauter au cou à son retour. que lui ramener un coquillage pour lui montrer qu'il ou elle vous a manqué pendant vos vacances est plus fort que d'être accroché à votre téléphone pour lui dire « je t'aime » toutes les heures. Ce que ça veut dire, c'est que l'on peut aussi être aimé par quelqu'un sans jamais se rendre compte de l'intensité des sentiments de cette personne. Et pour Gary Chapman, ceci arrive lorsque nous donnons et recevons l'amour d'une manière différente de notre partenaire. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire « aimer plus » ? Est-ce qu'un amour plus fort qu'un autre s'exprime en plus de mots, plus de gestes ? Est-ce qu'on peut le mesurer en kilos, en litres, en mètres ? Je repense à cette petite phrase de mon ami Louis. Dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Mais comment quantifier un amour exprimé dans un langage différent ? C'est comme comparer des pommes et des poires. C'est tout simplement impossible. Et comment se sentir libre et épanoui en couple quand on est en permanence en train d'essayer de comparer l'incomparable ?
Celui qui s'accroche plus va avoir le sentiment d'aimer plus et que l'autre l'aime moins. Mais c'est pas sûr. Malheureusement, ce type de balai à l'intérieur d'un couple crée des effets de cercle vicieux, c'est-à-dire que celui qui est moins sécure, il va s'accrocher encore plus à l'autre, qui va peut-être se sentir envahi, étouffé par cet amour, donc il va avoir tendance à vouloir se mettre à distance, et ainsi de suite. Et donc ça peut créer des malentendus sur le sens même de l'amour à l'intérieur du couple, alors que ce sont les personnes qui sont différentes.
Si côté psychologie, il paraît impossible de quantifier nos sentiments, qu'en est-il des neurosciences ? Existe-t-il une formule mathématique pour calculer l'amour ? J'ai posé cette question à Jean-Paul Tassin, directeur de recherche émérite à l'INSERM, au département de neurosciences. Pour lui, s'il est impossible de quantifier l'amour, c'est aussi parce que notre cerveau en est physiologiquement incapable. Il m'explique que notre cerveau peut traiter l'information présente dans notre environnement de deux manières. La première, c'est le traitement analogique, le traitement de base, qui commence de façon inconsciente dès notre naissance.
Lorsque l'on rencontre quelqu'un, ce quelqu'un a des éléments, disons, généraux, des éléments saillants, qui nous ramènent à notre histoire initiale, notre histoire d'enfance. Par conséquent, cette situation va faire que lorsque nous avons eu du plaisir en tant qu'enfant, si nous retrouvons une voix, une façon de parler, une façon de regarder ou des éléments physiques qui nous intéressent, à ce moment-là, on va devenir amoureux sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on va faire un traitement analogique de l'autre et on va attraper cette vision comme étant excellente et comme étant correspondant à ce que nous cherchons, même si c'est faux. Même si c'est faux, c'est-à-dire que les éléments analogiques sont des éléments qui sont très rapides, dont nous n'avons pas franchement conscience.
Le traitement analogique est commun à presque tous les mammifères. Il est tellement rapide qu'il est impossible d'en avoir conscience. Par exemple, quand je sens le parfum Chalimard, j'imagine instantanément ma grand-mère, parce que je l'ai toujours associée à cette odeur. Je ne choisis pas de penser à elle, et mon cerveau, via le traitement analogique, me la ramène en mémoire. À peine un quart de seconde après cette association automatique, arrive le second traitement, le mode cognitif. Grâce à lui, je me rappelle bien vite que je suis simplement dans une parfumerie. Ce sont nos facultés cognitives qui nous permettent de percevoir et d'interagir avec notre environnement.
Et c'est ça ce qui crée le problème dans le couple, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a un autre traitement qui apparaît, c'est le traitement cognitif, qui était là au début bien sûr, mais qui avait été d'une certaine façon mis de côté. On est tellement satisfait de ce qu'on vient de voir, de ce qu'on vient de vivre, de ce qu'on est en train de vivre, qu'on élimine le traitement cognitif et petit à petit, ce traitement va faire que l'on va se rendre compte que la personne qui avait toutes les qualités au départ en a peut-être un peu moins, peut-être qu'elle a même des défauts qu'on avait évacués. Et à ce moment-là, on va devenir, entre guillemets, moins amoureux.
Alors, non seulement l'amour n'est pas exprimé de la même façon par tout le monde, mais en plus, son intensité subjective peut varier au cours du temps, chez un même individu et au sein d'une même relation. C'est pourquoi, selon Jean-Paul Tassin, essayer de quantifier l'amour serait un non-sens neuroscientifique. Mais alors pourquoi s'acharne-t-on à essayer ?
Tout le monde se pose cette question. Est-ce qu'elle m'aime aussi fortement que je l'aime ou est-ce que je l'aime autant qu'elle m'aime ? Le problème n'est pas de se poser cette question, c'est de savoir quand la poser. Si elle arrive trop tôt dans la relation, la réponse peut être biaisée par le manque de maturité du temps passé à deux. Et si elle arrive trop tard ? Quand un couple s'éloigne, les deux amants se font du mal tant qu'il y a de l'espoir pour l'un, pour l'autre ou pour les deux.
Dans Membre fantôme, une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Guillaume de Buzel, le personnage de Samaël réfléchit le temps d'un monologue à la raison pour laquelle nous cherchons tellement à quantifier l'amour. Et il arrive à la conclusion que c'est souvent dans un but inconscient, mais bien précis, l'estimation d'un rapport de force émotionnelle au sein du couple. Au fil de plus de 13 années de vie commune, l'amour que ressent Maïssa pour son mari varie et les frustrations s'accumulent. Mais avant de revenir au récit de Maïssa, je vous propose quelques secondes de pause.
Une maison, c'est faire les courses, faire à manger, s'occuper des enfants, travailler, revenir, payer, enfin voilà, la vie de tout le monde que tout le monde connaît. Et je me suis retrouvée à tout faire. Et un jour, j'allais vers le marché, je me souviens très bien, un marché qui était en bas rue Ordener, dans le 18e, je tirais mon caddie, je suis allée, j'ai rempli le caddie, je suis remontée, et à un moment, je ne sais pas ce qui se passe, et le caddie se casse la gueule, et tout ce que j'avais acheté s'étale par terre. Et je me suis assise sur le trottoir, et j'ai commencé à chialer, quoi. J'ai chialé ma race ce jour-là, quoi, je te jure. Les gens s'arrêtaient. « Ça va, madame? Mais on vous ramasse les affaires. »« Non, ils m'ont fait des affaires !» Ce jour-là, il y a eu un début du divorce. Ce jour-là, je me dis non. Ah non, je... ah non. Ah non, quoi. J'en peux plus. Revenir, trouver que la personne en face, elle est en train de lire son journal, que tout va bien et que la bouffe est prête, quoi. Ce jour-là, quand je suis rentrée, j'ai râlé sur les sacs de course et tout. Mais ma vraie décision, enfin, elle n'a pas été impulsive. J'ai pris le temps de vraiment réfléchir et après j'ai envoyé une lettre par courrier qu'il a reçue dans la boîte aux lettres de la même maison, du coup, dans laquelle je demandais le divorce.
L'histoire se répète. C'est Maïssa qui demande le divorce, quand bien même elle avait l'impression d'être celle qui aimait le plus. Comme Benoît des années plus tôt, c'est elle qui se sent la plus investie dans la relation et c'est tout de même elle qui prend la décision de partir. Mais alors, si se montrer détaché n'empêche pas de se faire quitter, pourquoi a-t-on l'impression que l'on se protège en donnant moins à l'autre ? Il y a quelques mois, je suis allée boire un verre avec un ami que j'avais un peu perdu de vue. Je lui annonce que j'ai rompu avec mon copain de l'époque. Il me demande « C'est toi ou c'est lui qui est parti ?» Je lui réponds que c'est moi, suite à quoi il réplique « Ah bah ça va, c'est toi qui as gagné !» Comme un arbitre pendant un match, on veut tout relever et, si nécessaire, sanctionner. Les hors-jeux, les tirs cadrés ou les tirages de maillot. Sauf qu'à la différence de l'arbitre, nos cerveaux ne sont pas réputés pour leur objectivité. Tout notre vécu passe à travers le prisme de notre perception. Et concernant l'amour, chercher à compter les points serait un non-sens, car nous n'avons même pas de grille de notation. Selon Serge Éphèse, nous avons cette fâcheuse tendance à vouloir tout quantifier, tout analyser, tout comparer. C'est normal, nos cerveaux sont construits ainsi. Ils sont soumis à la fois à notre biologie, notre génétique et nos expériences passées. Serge Éphèse insiste particulièrement sur l'importance de nos premières années de vie, qui conditionnent notre manière d'aimer par la suite.
Tout le monde n'a pas la même façon d'aimer. Et tout le monde n'a pas la même façon d'aimer parce que l'amour, ça ne s'apprend pas dans le couple, mais ça s'apprend dans les premières relations qu'un bébé a avec son environnement, classiquement avec sa mère, mais enfin avec tous les gens qui l'entourent et qui s'occupent de lui. Et qu'on le sait qu'on développe des façons d'aimer qui sont plus ou moins sécures, plus ou moins sécurisées, plus ou moins sécurisantes, selon la façon dont justement l'environnement va s'occuper de ce bébé et va le rassurer et va comprendre ses besoins et va entrer en relation avec lui.
Le premier à avoir parlé de relations sécures, c'est le psychiatre et psychanalyste anglais John Bowlby en 1958 avec sa théorie de l'attachement. Selon lui, le bébé développe dans sa première année des comportements d'attachement envers une personne en particulier. Lorsque l'enfant pleure, par exemple, ce serait pour que cette personne, sa figure d'attachement, lui procure sécurité et réconfort dans les situations de détresse. L'amour plus ou moins sécure que nous recevons de nos proches au début de notre vie se retrouve ensuite dans toutes nos relations, et a fortiori nos relations amoureuses. Et selon Jean-Paul Tassin, cela s'explique par le traitement analogique de l'information opéré par notre cerveau quand nous étions enfants.
Beaucoup de gens recherchent désespérément leur satisfaction première. Le cerveau analogique, qui est le seul à exister pendant les premiers mois, va servir d'empreinte et on va construire sur ces, on appelle ça les bassins attracteurs, sur ces bassins attracteurs, on va construire de nouveaux bassins qui vont utiliser le cognitif, mais on aura toujours cette base qui se sera mise en place très très tôt dans l'existence.
Ce que Jean-Paul Tassin nomme les bassins attracteurs, ce sont ces mécanismes et ces schémas que nous gardons à partir de connexions neuronales qui ont été faites il y a très longtemps. Par exemple, mon association entre le parfum Chalimard et ma grand-mère. À une autre échelle, les interactions, positives ou négatives, que nous avons eues avec nos parents quand nous étions petits, forment nos bassins attracteurs actuels. C'est un peu la version neuroscientifique de la théorie de l'attachement de John Bowlby. La façon dont nous qualifions une relation et dont nous quantifions nos sentiments dépend donc étroitement de notre enfance. Et c'est depuis nos premières années, grâce à l'alternance entre nos traitements analogiques et cognitifs, que nous inventons notre propre façon de percevoir la réalité, notamment nos sentiments et ceux des autres, à travers une grille de lecture qui n'est propre qu'à nous-mêmes, car elle a été forgée par toutes nos expériences et nos relations passées. C'est pourquoi il est impossible d'établir une mesure du sentiment amoureux qui serait valable pour tout le monde, car nous sommes tous amoureux de manière extrêmement différente. Dans une interview pour le CNRS, la philosophe et historienne Bernadette Bensaud-Vincent explique cette tendance à tout évaluer et tout quantifier par notre volonté de créer des échelles de valeurs. En inventant mille et un outils de mesure, on cherche à donner une objectivité à des choses qui n'en ont pas toujours, afin de chiffrer notre investissement et de prendre des décisions que l'on voudrait optimales. Mais est-ce qu'une heure de ménage vaut une heure de cuisine ? Est-ce que s'occuper des enfants le soir, c'est la même chose que s'occuper des enfants le matin ? Chercher à faire les comptes me paraît être une démarche assez vaine. De même que de chercher à répondre à la question « En couple, y en a-t-il toujours un qui aime plus que l'autre ?» C'est un piège, car l'équation qui consiste à mesurer l'amour est insolvable. Et puis, si le calcul des sentiments était possible, serait-il seulement souhaitable ? On le voit bien au quotidien. Chercher à comparer les sentiments de l'un et de l'autre nous place dans la confrontation, et donc dans le reproche. Et c'est à nous-mêmes que nous portons préjudice si nous soumettons notre bien-être à la force des sentiments que l'on perçoit de l'autre. Par le passé, Maïssa a pu voir ses relations amoureuses par le prisme d'un rapport de force, d'un territoire à conquérir, comme elle dit. Elle s'est donnée corps et âme pour son mariage. Aujourd'hui, l'expérience lui a appris à prendre du recul, à s'extraire de son cerveau et de son couple, pour revenir à son corps et donc à elle-même.
L'erreur fatale, c'est de penser que la personne que nous aimons va être la source de notre bien-être. C'est comme prendre un panier, mettre tous les œufs dedans et se trimballer sur un fil au-dessus d'une vallée. Tu te casses la gueule et t'as plus rien. Tu vois, t'as plus rien. Et vaut mieux, en fait, et je me le dis à moi-même, et je ne l'ai toujours pas appris, tu vois, que ton panier soit multiple, en fait. Et multiplier les sources, c'est l'écologie de la relation amoureuse.
Cette notion d'écologie de la relation amoureuse m'intrigue beaucoup. Se sentirait-on mieux en couple, et moins dans un rapport de domination, si l'on entretenait davantage de relations affectives, amicales notamment ? Faudrait-il repenser leur hiérarchie ? Par exemple, en ne considérant pas notre amoureuse ou amoureux comme notre unique pilier affectif. Malgré toutes ces limites, la question « y en a-t-il un qui aime plus que l'autre ?» n'est pas complètement vaine. Il faut simplement en décaler le cadre. Oui, il faut chercher à équilibrer la balance, mais pas la balance que l'on croit. La question devrait plutôt nous inviter à différencier le couple des individus qui le composent et à le considérer comme une entité qui existe par elle-même. Nous pouvons ainsi choisir de porter la casquette « membre du couple » à certains moments, puis la casquette « personne à part entière » à d'autres, sans avoir besoin de choisir définitivement entre les deux. En écoutant l'histoire de Maïssa, je me dis que paradoxalement, la meilleure solution pour vivre sereinement en couple consiste peut-être à ne jamais s'arrêter de se poser des questions. Se questionner sur sa manière d'aimer, pourquoi on aime, comment on aime, se demander si la façon dont notre partenaire nous exprime son amour correspond à nos attentes vis-à-vis de cette relation, et ne pas hésiter à dire que l'on a besoin de cadeaux ou de mots doux. Mais tout ce cheminement intime est une quête, et non une destination. Car si Maïssa en est aussi arrivée à ses conclusions, cela ne veut pas dire que le chemin s'arrête là.
Ça m'a permis aussi d'apprendre à faire comme dans une forêt. Par exemple, tu es sur une ortie qui pique par moment, que tu vois que tu as supporté. Et aussi à changer d'angle, en fait, de point de vue. Parce que, en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est comme poser un télescope et vouloir voir une étoile et la même étoile tout le temps. Et en fait, il suffit des fois de tourner le télescope, de se dire « je vais capter une autre étoile ». Pas pour un autre amour, mais pour juste ne pas être tout le temps dans la même fixeté, sur les mêmes choses. Et donc, ce que ça m'a permis d'apprendre, cette relation amoureuse, c'est de mieux me respecter à ce niveau-là, c'est-à-dire de connaître ma valeur là-dessus et de l'apprécier pour ce qu'elle est. Ça, c'est mon cadeau à moi. Je suis une fille qui a cette sensibilité-là, cette hypersensibilité, cette réceptivité. Et peut-être de... essayer de la déployer, de la canaliser dans un endroit qui me nourrit plus.
Tu sais, Cécile, en amour, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Finalement, quand je repense à cette phrase dite par Louis il y a maintenant 10 ans, je ne la vois plus du tout de la même façon. À l'époque, elle m'est apparue comme une évidence, mais aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'elle n'a pas lieu d'être. J'ai cru pendant longtemps que ce qui était vrai pour moi était aussi vrai pour les autres. Que mon copain serait aussi heureux que je l'invite au resto que je l'aurais été s'il l'avait fait à ma place. Que tout le monde partait dans la vie avec la même grille de notation. Maintenant, je réalise que les maths n'ont rien à voir là-dedans. Les personnes que j'aime, pourquoi je les aime, tout ça est en partie inscrit en moi depuis le début. J'ai compris que ma génétique, mes expériences personnelles et la culture dans laquelle j'ai grandi ont déterminé mon sentiment amoureux et que je l'exprime de façon unique. Et c'est pour cela que l'on ne peut ni quantifier, ni même définir le sentiment amoureux de manière objective. L'histoire de Maïssa m'a appris qu'être celui ou celle qui aimait le plus ne nous mettait en aucun cas à l'abri de la souffrance. Et que cette souffrance est inévitable mais indispensable pour apprendre de nos erreurs et choisir à l'avenir des partenaires qui nous correspondent mieux. Je suis Cécile Lombardi et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné et écrit cet épisode. La réalisation sonore était de Clémence Rolia. Vous avez entendu les voix de Maïssa, Serge Effez et Jean-Paul Tassin. Un immense merci à Camille pour son aide et au comédien Vincent Gomi pour son interprétation du personnage de Samaël dans Membre Fantôme. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Léna Coutreau est la productrice d'Émotion, accompagnée d'Elsa Berthaud. Retrouvez Émotion un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.